Il est 10h du matin en temps universel, 13h à Beyrouth, 13h30 à Téhéran. Vous êtes bien sur RFI.
Victor Moria.
Le Liban et l'Iran bombardés cette nuit par Israël. Des dégâts limités, explique le régime iranien. Tel Aviv, de son côté, avertit déjà qu'elle ne tolérera pas une éventuelle riposte. Une escalade qui n'est pas dans l'intérêt des deux puissances régionales, explique. Explication dès le début de ce journal. Reportage ensuite à Beyrouth, où les dizaines de milliers de déplacés dorment dans les rues de la capitale, et ce, alors que l'hiver approche et que la guerre ne s'arrête pas. Et puis, jour d'élection en Géorgie, Europe ou Russie, le scrutin déterminera vers quelle puissance se tournera ce petit état caucasien. Enfin, du football, ce soir, le Real Madrid accueille le FC Barcelone. Un choc, un classico. Reportage depuis Madrid. Deux morts, des militaires dans les frappes israéliennes sur Téhéran. Hier soir, l'État hébreu a lancé son offensive attendue contre l'Iran en réponse aux salves de missiles du 1er octobre. Selon l'armée, Israël n'a touché que des cibles militaires, notamment des sites de fabrication de missiles. Aucune infrastructure énergétique ou nucléaire n'ont été bombardées. Tel Aviv avertit déjà que l'Iran paiera le prix d'une éventuelle escalade. Mais Téhéran parle de dégâts limités, une manière de minimiser et de calmer le jeu. C'est ce que pense en tout cas Michael Young, rédacteur au Carnegie Middle Center.
Jusqu'à nouvel ordre, je crois qu'autant les Iraniens que les Israéliens essayent de minimiser l'idée d'une... tous les deux veulent éviter une guerre, une plus grande guerre. Donc chacun dit de son côté que les attaques de l'autre ont été minimes ou que les résultats ont été minimes. Mais moi, je ne suis pas tout à fait convaincu à ce stade-là qu'il n'y a pas eu un impact, surtout sur, disons, la production de missiles.
C'est quoi le message que veulent envoyer les Israéliens à l'Iran ?
Principalement qu'ils peuvent taper l'Iran quand ils veulent, que logistiquement ils peuvent le faire, et en même temps de dire ouais, c'est tout ça, c'est un jeu en fait de d'équation, si vous voulez, de dissuasion. Chacun essaye de dire à l'autre on est capable de riposter. Ça fait un an depuis l'affaire de Gaza que Israël essaye de réimposer une équation de dissuasion à son avantage. Et je crois qu'ils essayent de faire ça en ripostant contre l'Iran. Et on va voir si les Iraniens vont refaire la même chose avec les Israéliens.
Michael Young, rédacteur au Carnegie Middle East Center, au micro de Christophe Paget. Les appels au calme se multiplient au sein de la communauté internationale. Le Royaume-Uni et les États-Unis demandent à l'Iran de ne pas répondre à ces attaques, tandis que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Pakistan condamnent l'attaque israélienne. L'Irak a de son côté mis en garde contre les conséquences dangereuses du silence international face à Israël. Au Liban, l'armée israélienne dynamite des maisons au sud du pays, non loin de sa frontière. Des explosions si fortes que la terre a tremblé, rapportent des témoins. L'objectif d'Israël est de régler le problème du Hezbollah à sa frontière nord pour permettre le retour de dizaines de milliers de ses déplacés. Les bombardements, malgré les frappes israéliennes sur l'Iran, n'ont pas cessé cette nuit et se poursuivent ce matin, notamment au sud du pays. Hier, le Hezbollah a revendiqué 48 attaques contre Israël, le plus grand nombre mené depuis le début de la guerre, le 8 octobre 2023. Celle-ci inclut des attaques contre des positions israéliennes au Liban, mais aussi contre des forces israéliennes ayant pénétré le Liban Sud. La guerre qui a fait des centaines de milliers de déplacés dans tout le Liban. À Beyrouth, ils sont des centaines à avoir planté leurs tentes sur la route de la Corniche ou sur les places de la ville. Souvent, ce sont des familles entières qui ne reçoivent quasiment aucune aide et qui s'inquiètent de l'arrivée de l'hiver. Reportage sur place, Pierre-Olivier Jadelcoury.
La place des martyrs de Beyrouth porte bien son nom. Depuis le début de la guerre, des dizaines de familles y ont élu domicile pour fuir les bombardements. Cette femme a 75 ans.
Tu accepterais ça ? Je dors par terre sur une bâche. Personne ne nous a donné ni matelas ni couverture. On veut avoir du gaz pour se chauffer. Dieu seul sait quand on va pouvoir rentrer chez nous.
Ces habitants, principalement venus de la banlieue sud de la capitale, pilonnés jour et nuit par Israël, redoutent la baisse des températures.
On se douche une fois par semaine avec un bidon d'eau, alors c'est sûr qu'avec l'hiver, on va vraiment mourir de froid.
Son fils de 14 ans complète.
J'ai pas d'amis ici, il nous manque aussi un matelas, des vêtements. Déjà, en ce moment, la nuit, j'ai froid. J'espère vraiment rentrer à la maison avant l'hiver.
À quelques centimètres de la route, cet homme, sa femme et ses 5 enfants ont planté leur tente.
Tout le monde nous ignore, même l'État. On ne nous distribue plus de nourriture. Il me faut un toit. Je ne peux pas rester dans une tente qui s'envole. Avec la pluie, l'eau va s'infiltrer. J'ai peur de l'hiver et du froid. Mes enfants sont en t-shirt.
Sans aucune autre solution d'hébergement, ces familles prient pour que la guerre se termine. semaines et pour retrouver leur logement intact avant l'hiver. Jadel Khoury, Pierre-Olivier, Beyrouth, RFI.
La Géorgie est en train de vivre le scrutin le plus important de son histoire. C'est en tout cas le ressenti de nombreux électeurs en se rendant aux urnes ce samedi. 3 400 000 électeurs géorgiens sont appelés à élire leurs 150 députés. Un scrutin à la proportionnelle intégrale, en un tour donc, qui doit déterminer vers qui de l'Europe ou de la Russie se tournera le pays. D'un côté, le parti au pouvoir, rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanichvili, pro-russe. De l'autre côté, une population qui déclare à 80% vouloir adhérer à l'Union européenne. Régis Jean à Tbilissi.
C'est la peur au ventre que nombre de Géorgiens, surtout les pro-occidentaux, se rendront aux urnes ce samedi. Avec le sentiment que c'est l'élection de la dernière chance, qu'une victoire du parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanichvili, qui a fait fortune en Russie, ferait définitivement repasser le pays dans l'orbite russe. Ce qui, selon ces mêmes pro-européens, est quasi déjà fait après l'adoption en force, en mai dernier, de la loi dite sur les agents de l'étranger, un texte pleinement inspiré de la loi russe de 2012, qu'il considère comme de nature à imposer un régime autoritaire en Géorgie. De l'autre côté, les supporters du rêve géorgien disent, eux, craindre que si l'opposition gagne, ce sera la porte ouverte à la guerre en Géorgie. Un second front de la guerre en Ukraine que l'Occident voudrait ouvrir dans le Caucase, selon les dirigeants géorgiens actuels. La campagne s'est déroulée dans une ambiance tendue, nombre d'opposants étant agressés dans les rues, tandis que l'homme fort du pays, M. Ivanichvili, promet d'interdire les principaux partis d'opposition après le scrutin. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Au Mozambique, deuxième jour de manifestation, hier après la proclamation de la victoire du candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, jeudi dernier. Rassemblement à l'appel de Venancio Mondlane, officiellement arrivé deuxième de la présidentielle du 9 octobre. Lors de la première journée de manifestation, une personne avait perdu la vie. Hier, Internet a été coupé dans le pays. Dans la soirée, Osufo Momade, le candidat de la Renamo, arrivé troisième, s'est exprimé pour la première fois. Il demande l'annulation des élections, invoquant des bourrages d'urnes. Dans le cas contraire, la Renamo n'assumera pas la responsabilité d'éventuels troubles post-électoraux, a-t-il déclaré au cours d'un point de presse à Maputo, la capitale. Au Bénin, l'audition d'Olivier Bocco par la commission d'instruction de la CRIET, la cour antiterroriste prévue pour ce vendredi 25 octobre 2024, a été reportée à la demande des avocats. Il était présent au moment de la requête qui a été acceptée. La défense n'a pas communiqué sur les raisons. L'ex-ami très influent de Patrice Talon devrait revenir devant les juges la semaine prochaine. Depuis le 1er octobre 2024, il est inculpé pour complot contre la sûreté de l'État avec un ancien ministre des Sports. Du foot et du Classico à Madrid. Ce soir, le Real reçoit le FC Barcelone. Le club de la capitale, deuxième au classement de la Liga, est à 3 points de son adversaire du soir, leader du championnat après 11 journées. Un match qui a une saveur encore plus particulière cette saison, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, bien sûr, dans les rangs Blaugrana, et la confirmation de l'émergence d'une nouvelle génération dorée au Barça. À Madrid, correspondance de Pierre Chaperon.
Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham d'un côté, la jeunesse du Barça de l'autre, incarnée par Lamine Yamal, 17 ans, ce classico semble symboliser une nouvelle ère, un changement d'époque pour Juanma Sanchez, journaliste pour la Radio Nationale.
Depuis que Messi et Cristiano Ronaldo sont partis, la dynamique a changé. Maintenant avec Mbappé au Real et les jeunes du Barça qui sont très bons, c'est un nouveau classico qui commence. Il y a moins de différence entre les deux équipes.
Une force collective barcelonaise qui vient de battre le Bayern 4-1 mercredi. Pas de quoi être impressionné dans la capitale pour Andrés, supporter du Real de 52 ans. Oui, le Barça a une belle génération, mais le Real reste au-dessus.
Ce sont eux qui doivent avoir peur, pas nous. On est l'équipe à battre, le meilleur effectif du monde. Le Real, c'est un passé, un présent et un futur. On peut gagner ce que l'on veut.
Au-delà de l'histoire, le Real n'a qu'un objectif, l'emporter et rattraper son rival du soir au classement. 3 points séparent Madrid de Barcelone. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et c'est aussi un week-end de classico en France et de derby, puisque ce soir, Lens reçoit Lille et dimanche, Nice reçoit Monaco. Et enfin, le classique des classiques pour le championnat français, Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Un match que les Marseillais doivent absolument gagner pour rester au contact des Parisiens. Le PSG est leader de Ligue 1, Marseille troisième. Enfin, dernier match à suivre ce week-end, c'est la Juve qui reçoit l'Inter de Milan, qui reçoit la Juve. C'est en Italie, un match à suivre à 18h, heure de Rome. Pardon, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.